Bonjour chers auditeurices, je suis Louis Duruflé et bienvenue dans le podcast Tout sur Tout Histoire, le podcast énergie pour ceux qui n'écoutaient pas au fond de la classe d'histoire. Biographies de personnages célèbres, événements marquants, épopées entrepreneuriales, laissez-vous surprendre par l'histoire dont on ne vous a jamais parlé à l'école. Pour changer, je vous propose de jouer à un petit jeu. Un jeu d'esprit tout simple. Il faut juste se concentrer et être bien à l'écoute. On va chercher ensemble qui est le créateur du plus grand détective de tous les temps. Première énigme concernant l'auteur. Je suis un homme et je porte des jupes. James Bond m'aurait reconnu comme son frère. Ce qu'il faut chercher ici, ne soyons pas dupes, c'est mon pays d'origine, la chair de ma chair. Alors, vous avez trouvé ? Allez, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais oui, mais c'est l'Écosse, bien sûr. Allez, deuxième énigme. Chers auditeurices, je vous en prie, écoutez. Car c'est mon prénom qu'il va falloir trouver. D'un barbare sanguinaire, je porte le nom, mais c'est aussi celui d'un grand roi breton. Allez, vous avez bien une petite idée ? Mais oui, bravo, c'est ça. C'est Conan, comme Conan le barbare. Et enfin, troisième et dernière énigme, sur le nom de l'auteur cette fois-ci. C'est parti. Je suis synonyme d'ancien français, mais ce n'est pas d'être humain dont il s'agit. Dans le nord de la France, je voyageais et c'est moi qu'on a gardé, pardi. Alors, celle-là, elle est plus dure, hein ? Vous donnez votre langue au chat ? Oh oui, ça ferait plaisir à Minou. Hein, Minou ? Oui, c'est bon les langues. Et oui, ce qu'il fallait trouver, c'était la langue Doyle. Et donc on a un Écossais qui s'appelle Conan Doyle et qui a créé le plus grand détective du monde entier, Sherlock Holmes. Élémentaire, mon cher auditeurice. Mais saviez-vous que Conan Doyle s'est inspiré d'une personne réelle pour créer son personnage ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Enfilez vos maillots et vos lunettes de piscine et plongez avec moi dans l'Angleterre victorienne. Arthur Ignatius Conan Doyle naît le 22 mai 1859 à Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Il est le deuxième enfant d'une famille de 10. Je n'imagine pas les batailles pour avoir la dernière part de gâteau. Son père ne roule pas vraiment sur l'or. Pire que ça, c'est un alcoolique qui dépense le peu d'argent qu'il a en whisky. À l'inverse, sa mère le pousse à lire les grands écrivains du début du siècle, comme Edgar Allan Poe ou Jules Verne, et il développe un goût pour l'histoire et la narration. Il effectue sa scolarité primaire chez les Jésuites, en Angleterre. Ça l'éloigne de sa famille et ça lui forge un caractère aventurier. Il finira l'équivalent du lycée en Autriche, à Feldkirch. En 1878, il a 19 ans et il s'inscrit à l'université d'Édimbourg pour étudier la médecine. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à laisser de côté sa foi catholique pour se tourner vers l'agnosticisme. L'agnosticisme, c'est un grand courant de pensée qui fait son chemin chez les intellectuels du XIXe siècle. Pour faire simple, l'agnosticisme, c'est considérer que tout ce qui a trait à Dieu nous est inaccessible. Donc pour eux, il nous est impossible de dire si Dieu existe ou non. Bref, pendant ses études, Conan publie quelques nouvelles dans des revues locales. Il se concentre alors sur les récits historiques. L'histoire, c'est un peu sa marotte à lui. Dans sa famille, on raconte que ses ancêtres viennent du village d'Ouilly-sur-Orne, en Normandie, et que ses arrière-arrière-arrière-arrière, et rajoutez encore quelques arrières, arrière-arrière-grands-parents auraient traversé la Manche dans d'épiques épopées vikings. Et il se plaît à croire qu'il est même descendant des ducs de Bretagne. Et pourquoi pas même de Conan Meriadec, le roi légendaire de la Bretagne romaine. On raconte que c'est grâce à ce Conan, roi de Bretagne, que l'hermine serait le symbole des Bretons. Bref, revenons en Écosse au 19e siècle. Conan Doyle est fier de son patrimoine et qu'il soit réel ou imaginaire lui importe peu. Il veut écrire des romans historiques. jour, pendant sa deuxième année de médecine, Conan Doyle pousse la porte d'une salle de classe. La classe du docteur Bell, spécialisée dans la méthodologie en médecine générale. Dès que Conan franchit la porte, le professeur l'arrête. « Eh bon, là, vous, là, l'Écossais, là, passionné d'histoire. Allez, dépêchez-vous de vous installer parmi vos camarades. » Conan est stupéfait. Comment le professeur Bell pouvait-il savoir qu'il était écossais avant même qu'il ait parlé? Et pour ce côté historien? Ce sera la première et grande rencontre entre Conan Doyle et Joseph Bell. Bon, j'avoue, j'ai un peu exagéré l'histoire de leur rencontre. Mais le docteur Joseph Bell est réputé pour savoir ce dont les patients souffrent, parfois même avant de les rencontrer. Cette compétence impressionne fortement Conan Doyle, tellement même qu'il a envie de créer un personnage qui fait la même chose. L'idée de Sherlock Holmes fait doucement son chemin. Conan Doyle commence à observer Joseph Bell et à mener sa petite enquête. Chez les Bell, on est tous médecins, et même la crème de la médecine. On est chirurgien. Joseph réussit ses études de médecine. Et à côté, il écrit de la poésie, observe les oiseaux et pratique beaucoup de sport. Et surtout, il ne s'arrête jamais. Un peu comme Sherlock Holmes. Et comme Sherlock Holmes, il aime aussi porter des manteaux à cape et des casquettes à double visière. Mais si, la casquette à double visière, c'est un peu le rêve de tous les papas qui font de la pêche. Ça protège à la fois le front et la nuque, du soleil comme de la pluie. Et encore, comme Sherlock Holmes, il ne fait pas tellement attention au genre des personnes. C'est même un des premiers à enseigner la médecine aux femmes, malgré les polémiques que ça engendre. Mais c'est surtout la méthode de diagnostic du Dr Bell que Conan Doyle va retenir pour créer son personnage. Pour s'exercer, les étudiants en médecine doivent ausculter des patients, puis en faire un rapport au professeur. C'est d'ailleurs une étape qui fait toujours partie de la formation médicale aujourd'hui. Conan, comme les autres élèves, se rend au chevet de ses patients et prend des notes minutieuses. Comportement du cœur, respiration, mouvements anormaux et plein de petits autres détails. Il en fait rapport au docteur Joseph Bell qui sait tout de suite ce qu'il se passe, un peu comme un mentaliste, ou plutôt comme Dr House. Et ça n'est pas complètement un hasard, mais j'y reviendrai. Il y a même des moments plus troublants encore. Un jour, une femme entre avec son petit garçon dans le cabinet du docteur Bell. Elle passe à peine la porte que Joseph Bell la bombarde de questions. « C'était comment la route pour venir depuis Fife ? Et vous êtes passé par l'allée Inverleith ? Et à l'usine de linoléum, ça se passe bien ? Et votre deuxième fils, il est pas malade, lui ?» Franchement, mon médecin me ferait un truc pareil, mais ça me ferait trop peur. Je penserais que c'est un sorcier, et plutôt du genre Voldemort que Dumbledore. En fait, toutes ces remarques sont dues à une observation minutieuse. Pour la ville de Fife, c'est plutôt simple. Cette femme avait l'accent typique de Fife. Pour l'allée Inverleith, c'est grâce à de la terre rouge sur les chaussures de la femme que le docteur Bell a pu deviner qu'elle était passée par là. Mais pour l'usine de lino, là, c'est déjà un peu plus fort. En fait, cette brave dame a une dermatite à la main droite. Un peu un eczéma dû à un dessèchement de la peau. Et Bell sait que seuls les ouvriers de cette usine présentaient cette particularité. Et pour couronner le tout, Bell remarque qu'elle porte un manteau sur son bras, mais qu'il est trop grand pour le petit garçon qui est avec elle. Ça veut donc dire qu'elle est partie de la maison avec deux enfants et qu'elle en a laissé un chez quelqu'un de proche. Tout ce savoir, le docteur Bell cherche à en faire profiter ses élèves, dont Conan Doyle. Dans les cours de Bell, on apprend par exemple qu'un marin marche différemment d'un soldat et que les callosités sur les mains d'un maçon sont différentes que celles sur les mains d'un charpentier. Un vrai cours de Sherlock Holmes, quoi. Parfois, c'était même un peu limite comme enseignement. Un jour, il vient avec un gros bocal rempli d'une substance orange qui sent super fort. Il dit aux élèves que c'est une drogue puissante et qu'ils doivent savoir quel goût ça a pour repérer si un patient en prend. Et pour donner l'exemple, Joseph Bell trempe son doigt dans la substance orange bizarre et le lèche. Puis il demande aux élèves de venir et de goûter. Tout le monde le fait, et on peut voir le dégoût sur leur visage. Une fois que tout le monde est passé, Joseph Bell dit qu'ils ont raté la leçon la plus importante. En réalité, ça n'était pas de la drogue, juste un vieux liquide puant. En fait, ça n'était pas le même doigt que le docteur Bell a trempé et celui qu'il a léché. Et c'est ça que les élèves auraient dû remarquer. La leçon à retenir, c'est que s'ils avaient mieux observé leur professeur, les élèves n'auraient pas eu à goûter ce liquide au goût affreux. Joseph Bell est un vrai magicien. David Copperfield, sors de ce corps. Ou plutôt le jumeau maléfique de David Copperfield. Je me mets à la place de Conan Doyle. Et j'avoue que ça aurait été difficile de ne pas avoir envie d'écrire sur une personne aussi badass et tordue que le docteur Bell, quitte à le transformer en personnage de fiction. Bref, en 1885, Conan Doyle devient docteur en médecine, après avoir rendu sa thèse sur les tabès dorsalis. Ce sont des troubles très douloureux qu'on développait avec la syphilis, une maladie sexuellement transmissible assez courante à l'époque, et qui fait un retour en force de nos jours. Protégez-vous. En 1887, il publie le premier roman avec Sherlock Holmes, Une étude en rouge. Et ce sera le premier d'une longue série. En parallèle, Conan a son propre cabinet médical et reçoit régulièrement des patients. Chaque fois, ce sont de nouvelles sources d'inspiration pour l'écrivain. Ici, un patient marin qui va l'inspirer pour Le Signe des Quatre, une nouvelle où d'anciens marins cachent un trésor pendant des dizaines d'années. Là, une femme myope qui rappelle celle de la nouvelle Une affaire d'identité. Dans celle-ci, on suit donc une femme myope avec qui son beau-père essaye de se marier en se déguisant. Tout ça pour garder la dot. Bon, entre nous, moi ça me ferait pas trop plaisir d'apprendre que mon médecin a écrit un roman avec un personnage clairement inspiré de moi, après que je sois allé le voir pour soigner mes allergies carabinées. Faciliter la narration des enquêtes de Sherlock Holmes, Conan Doyle décide de lui attribuer un comparse qui le suivra partout. Ce sera un chirurgien célibataire de retour de campagne militaire. Un certain Dr. Watson. Watson cherche un logement abordable à Londres et tombe sur Sherlock Holmes, qui cherche justement un colocataire. Holmes a un caractère fantaisiste et extravagant, alors que Watson, lui, est plutôt calme et réfléchi. Qu'importe, ils deviennent des amis fusionnels. Et le duo fonctionne à merveille. Holmes peut déduire comme une flèche et aura donc tout le loisir d'expliquer à Watson son raisonnement. Et donc à nous, lecteurs. Et des choses à expliquer, il y en a plein. Que ce soit par exemple de la cendre d'un cigare très particulier des Caraïbes retrouvé au bord d'une fenêtre. Ou un personnage qui a changé d'identité pour se faire passer pour un riche aristocrate. Sherlock Holmes déduit tout en quelques secondes et passe l'heure qui suit à tout détailler à Watson. En réalité, les raisonnements de Sherlock sont proches de ceux du docteur Bell. Le plus grand détective du monde prend en note tout un tas d'éléments qui n'ont pas l'air liés les uns avec les autres et en déduit une conclusion finale, comme le docteur Bell. Il n'hésite pas à se déguiser, à poser des questions indiscrètes et à se balader dans les endroits les plus incongrus pour trouver le moindre indice. Avec Sherlock Holmes, Conan Doyle n'invente pas la police scientifique. Mais par contre, il y décrit bien les nouvelles techniques qui apparaissent à l'époque. On ne se base plus seulement sur les témoignages, trop incertains. La preuve doit être physique et solide. Un objet trouvé, l'arme du crime, une statue cassée, une empreinte de pas. Puis il faut assembler tous ces éléments pour avoir la seule conclusion possible, celle qui mène à la vérité. Alors qu'on suit Sherlock dans ses aventures, Conan Doyle en profite pour brosser le portrait de l'Angleterre victorienne. Attends, quoi ? L'Angleterre victorienne ? Mais c'est quoi ce truc ? Laissez-moi vous expliquer. L'Angleterre victorienne, c'est celle de l'époque victorienne. Et on dit victorienne parce que cette époque coïncide avec le règne de la reine Victoria. Grosso modo, c'est tout le 19e siècle en Angleterre. Encore une reine avec un long règne. C'est une époque fascinante, remplie de bouleversements sociaux, de découvertes scientifiques et d'un empire britannique qui veut coloniser le monde entier. C'est à cette époque que les tensions sociales sont de plus en plus fortes. Rien qu'à Londres, les plus riches roulent en carrosse pendant que les pauvres vivent dans la misère la plus totale. Les ouvriers ne dépassent pas les 1m50 de hauteur tellement ils sont mal nourris. Bref, la vie n'est pas des plus heureuses et il suffit de lire les romans de l'époque pour s'en rendre compte. Oliver Twist, Un chant de Noël, Le portrait de Dorian Gray et bien sûr, Sherlock Holmes. Et oui, on voit passer de tout. Des anciens marins qui cachent un trésor, j'en ai déjà parlé. Des secrets chez les aristocrates. La vie nocturne des cabarets. Les ragots qu'entendent les cochers. Tout le monde a droit à son petit commentaire par Sherlock. On n'est pas non plus dans le roman naturaliste, comme chez Zola. D'ailleurs, chacun est un petit peu caricaturé. Et finalement, il n'y a personne pour relever le niveau. Par exemple, dans Les Trois étudiants, attention aux spoilers, Conan Doyle en profite pour décrire le fonctionnement universitaire qu'il connaît bien. Parmi les protagonistes, on a le doyen de l'université, un étudiant sportif ou encore un étudiant indien. Et bien sûr, des examens de grec super difficiles et des tricheries alambiquées. Ça sent le vécu. Aujourd'hui, Sherlock Holmes est un des personnages les plus populaires de la fiction. Déjà, dès les premières publications des nouvelles du détective, à la fin du 19e siècle, les fans se réunissaient pour commenter les histoires. Ils créaient des clubs à Londres, à Paris, à Édimbourg, et ça porte même un nom, la Holmesologie, ou Sherlockiana pour les anglophones. Certains historiens considèrent même que les admirateurs de Sherlock Holmes se constituent la première forme moderne de la culture des fans. En gros, ce sont les ancêtres des fans de comics, de films ou de séries qui vont faire du cosplay aux conventions type Comic-Con. Et Conan Doyle n'en pouvait plus de cette ferveur. Il en avait tellement marre qu'on lui demande de nouvelles histoires de Sherlock Holmes qu'il décide de tuer son personnage dans la nouvelle « Les chutes du Reichenbach ». Mais rien n'y fait. Malgré ça, on l'interpelle dans les dîners mondains. On lui envoie des centaines de lettres. Tous les plus grands éditeurs lui proposent des contrats en or. Conan Doyle tient quand même pendant 10 ans. Puis il finit par céder et écrit de nombreuses nouvelles histoires. Il est même obligé de créer un énorme retournement de situation tiré par les cheveux pour expliquer qu'en fait, Sherlock Holmes n'était pas mort, mais qu'il était tellement intelligent qu'il avait réussi à berner tout le monde. Bon, moi j'aurais préféré qu'il aille encore plus loin et qu'il explique que Sherlock Holmes était kidnappé par des extraterrestres éblouis par son intelligence surhumaine, mais qu'il était parvenu à s'échapper de la soucoupe volante. Mais bon, ça n'est que mon avis. En tout cas, grâce aux aventures de Sherlock Holmes, le genre du roman policier se popularise et le monde entier veut ses propres histoires. En France, c'est Maurice Leblanc qui va s'inspirer de Sherlock pour créer son antagoniste, un voleur connu sous le nom d'Arsène Lupin. Malin et habile, il cache ses trésors dans les plus beaux endroits de France, comme l'Aiguille Creuse à Étretat. Arsène Lupin va même se faire poursuivre et arrêter par le grand Sherlock Holmes. Enfin, pas vraiment. Par Herlock Sholmes. Non, rassurez-vous, je n'invente pas. Maurice Leblanc voulait utiliser le personnage de Sherlock Holmes, mais on lui a refusé les droits. Et l'impact de Sherlock Holmes a dépassé les romans de Conan Doyle. La télévision comme le cinéma s'emparent aussi du personnage. 61 films, 8 séries télévisées, des dessins animés, des jeux vidéo et même des jeux de société. J'avoue que c'est un peu mon petit plaisir des dimanches pluvieux. Inviter 2-3 amis, sortir la boîte de jeu et c'est parti pour plusieurs heures d'enquête. Et puis, en plus des adaptations directes, il y a aussi celles qui s'inspirent clairement de Sherlock Holmes, comme le Dr House, qui est le spécialiste pour déceler les maladies les plus rares en considérant le diagnostic médical comme une enquête, quitte à s'introduire, par effraction, chez ses patients pour trouver des preuves. Un vrai retour aux sources. Ou, par exemple, Détective Conan, un des mangas les plus populaires au Japon, où on suit les aventures d'un enfant détective. C'est quand même fou de se dire qu'un personnage créé il y a près de 150 ans soit toujours aussi populaire aujourd'hui. Chapeau Conan Doyle! C'est maintenant l'heure de notre petit résumé. L'auteur de Sherlock Holmes, Conan Doyle, est né en Écosse au milieu du 19e siècle. Passionné d'histoire, il fait de brillantes études de médecine. L'inspiration pour son personnage, il l'aura en rencontrant un professeur en deuxième année de médecine, Joseph Bell. Le docteur Bell est persuadé que le premier acte de soin se joue dès le diagnostic. Il crée donc une méthode rigoureuse d'analyse des patients pour en apprendre le plus possible sur eux. Et ça y est, Sherlock Holmes commence à prendre forme dans la tête de Conan Doyle, un détective hyper rigoureux, au raisonnement déductif implacable. On s'attache aux petits détails, on en tire des conclusions parfaites et on arrive à la résolution de l'enquête. Sherlock Holmes, accompagné de son fidèle Watson, devient une saga littéraire hyper populaire. Encore aujourd'hui, c'est le personnage policier le plus adapté de toutes les manières possibles. Des livres, des films, des jeux vidéo, des jeux de plateau et même de la musique, tout y passe. Il existe même le Centre des études holmésiennes, un regroupement de fans hors normes qui se crée un peu partout dans le monde. Un sacré détective, ce Sherlock. Merci d'avoir suivi minutieusement cet épisode sur Sherlock Holmes. Cet épisode a été écrit par Sarah Dowdy et Deblina Chakraborty pour le podcast américain Stuff You Missed in History Class. Il a été réécrit, adapté et interprété par Louis Duruflé. À la production et à la réalisation, Amel Almia. À la rédaction en chef, Maude Ventura. Tout sur Tout Histoire est un podcast NRJ et iHeart Podcast. Retrouvez tous les épisodes sur nrj.fr, sur l'app d'NRJ ou sur votre application de podcast préférée. Et si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Si vous avez aimé, c'est vraiment la meilleure manière de soutenir ce podcast. À bientôt !